Éphésiens, chapitre 1, on va faire la lecture des versets 3 jusqu'au verset 19, si vous voulez bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cette semaine était présentée une loi pour interdire aux mannequins qui ont un IMC, un indice de masse corporelle trop bas, de pratiquer leur métier. Tout ça pour lutter contre la maigreur extrême et l'anorexie. Des reportages ont montré que certaines femmes en sont rendues à se nourrir de boulettes de coton et de boire des infusions, simplement pour faire passer la faim. L'une d'elles est morte de faim, littéralement, alors qu'elle devait avoir un revenu qui lui permettait de manger chaque jour dans les meilleurs restaurants du pays. Et l'Épître aux Éphésiens s'adresse à des chrétiens qui étaient portés à agir avec leur bien spirituel de la même façon que les jeunes femmes anorexiques le font avec la nourriture. On peut mourir de faim spirituellement alors que nous sommes en possession des plus délicieuses vérités. L'Épître nous dit tout ce que nous avons en Christ. L'Épître nous dit et nous invite à nous en saisir pleinement. Elle nous décrit la grande bénédiction. On trouve 5 fois le mot « richesse » dans ce livre. On trouve 12 fois le mot « grâce ». On trouve 8 fois le mot « gloire », et 6 fois les mots « plénitude »,« remplir » ou « rempli », 15 fois l'expression clé « en Christ » ou « en lui ». Christ, il est la source, il est le lieu de possession et la garantie de toutes les bénédictions et de toutes les richesses spirituelles. Alors, la grande bénédiction qu'on voudrait voir ce matin, c'est d'être adopté, c'est d'être scellé et d'être illuminé. Voyons d'abord d'être adopté. Être en Christ, c'est être uni à lui par la foi en son sacrifice. Être en Christ, c'est avoir fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Être en Christ, c'est avoir la rédemption, c'est avoir été racheté de tous ses péchés, de toutes ses fautes. C'est avoir le pardon des péchés, c'est d'être un membre de sa famille, c'est d'avoir été adopté. Et David Platt, dans son livre « Suis-moi », raconte l'adoption de son fils aîné, Caleb. Ils sont allés l'adopter au Kazakhstan. Il raconte que l'adoption d'un enfant s'avère souvent longue et à de nombreux égards exténuante. Certains la décrivent comme une grossesse de paperasse, et souvent qui s'étend bien au-delà de 9 mois. Il faut prouver devant 2 gouvernements, si vous adoptez à l'étranger, que vous êtes la famille idéale pour accueillir cet enfant. On étudie votre milieu familial, votre mariage, votre philosophie parentale, on étudie vos ressources, votre santé, votre équilibre psychique ou psychologique. Et puis, alors, il faut attendre, si votre dossier est retenu, jusqu'à ce qu'un jour, on vous téléphone et vous dise « Ça y est, on a un enfant pour vous ». Là, il vous faut prendre l'avion, rejoindre l'orphelinat, acquitter tous les frais pour enfin passer devant un juge qui va dire et établir que cet enfant est désormais le vôtre. Il porte votre nom, vous pouvez le ramener chez vous. L'Évangile, c'est une adoption. L'Évangile, c'est une adoption. Notre texte ici, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Une adoption, ça commence toujours à l'initiative d'un parent et non d'un enfant. Avant même la naissance de Caleb, l'enfant avait déjà des parents qui mettaient tout en œuvre pour l'adopter. Quand il se retrouve dans les bras de son père et de sa mère, il n'est absolument pas conscient de tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour en arriver là. Lui n'a absolument rien fait. Il n'a pas invité ses parents à l'adopter. Nous ne devenons pas enfants de Dieu à notre propre initiative, mais nous devenons enfants de Dieu à l'initiative de Dieu lui-même. Alors que nous étions seuls, que nous étions empêtrés dans notre péché, il projetait de nous sauver. Et c'est lui seul qui a fait le déplacement du ciel jusque sur terre. C'est lui seul qui a tout payé. C'est lui seul qui s'est présenté devant le juge, attestant d'une vie parfaite. Pour un enfant abandonné, être adopté, c'est une bénédiction considérable qui offre de nombreuses promesses. Être adopté par Dieu lui-même, c'est la grande bénédiction. C'est la grande bénédiction qui contient les plus précieuses promesses. Lorsque David Platt et son épouse sont rentrés du Kazakhstan avec leur fils Caleb, ils ont entendu certaines réflexions de la part des gens qui voyaient bien que leur petit garçon était clairement d'une autre origine ethnique que la leur. Et ils ont entendu ce genre de réflexion à ne jamais faire à des parents qui viennent d'adopter, du style « qu'il est mignon !» Et vous avez des enfants à vous ? Alors ils ont répondu « il est à nous, c'est notre fils !» Ou encore « vous avez déjà rencontré sa vraie mère ?» Alors David répond à ce moment-là « en fait oui, je suis même marié avec elle !» Ou oui, mais bien sûr, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, il en remet une couche. Mais vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. Ma chère femme n'est pas une fausse mère. C'est la vraie, c'est l'authentique maman de cet enfant. D'autres supposent que leur enfant ne connaît pas grand-chose de ses antécédents familiaux et culturels. Alors ils demandent aux parents s'ils ont l'intention de lui en parler. Alors ils répondent, mais oui, mais on a même déjà commencé à le faire. Et là, David parle de son père, de sa mère, des papis et mamies de son fils. Il parle de toute sa famille et de celle de son épouse. Et quant à son héritage culturel, mais il lui dit, mais oui, il connaît déjà Winnie l'ourson, il connaît une sourivette qui courait dans l'herbe, et il aime les hamburgers avec les frites. Il reconnaît peut-être pas vraiment l'hymne national kazakh, mais il sait reconnaître dès les premières secondes les chansons populaires de sa nouvelle culture. Ce n'est pas un étranger ou quelqu'un de passage dans leur famille. C'est leur fils. Il porte leur nom avec tout ce que cela implique. Pourquoi insister là-dessus? Mais parce que nous ne comprenons pas toujours ce que signifie l'adoption dont nous avons été l'objet de la part de Dieu. Bien sûr, le statut de ce petit garçon est fondé sur la décision d'un juge il y a des années dans un autre pays, mais la certitude de son adoption, elle provient de sa relation d'amour avec son père vécue chaque jour. De la même manière, notre statut devant Dieu a certes été fixé un jour lorsque on s'est tourné vers Dieu dans la repentance, se détournant de nos péchés, de nous-mêmes, plaçant notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, et parfois faisant même une prière pour cela. Mais la certitude de notre adoption est fondée sur une relation d'amour aujourd'hui, une relation d'amour permanente, de tous les jours. Ce n'est pas simplement parce que nous avons fait une prière un jour que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais parce que nous nous savons aimés de lui comme un père aime ses enfants. C'est lui qui nous console. Il pourvoit à nos besoins. Il nous corrige. Il nous encourage. Il nous enseigne. Il nous pardonne. Il nous fait jouir de sa présence. Parce que nous avons été adoptés, nous avons tous les privilèges des enfants de Dieu. L'apôtre Jean, soucieux que ses lecteurs saisissent cette même vérité écrite dans la première épître, chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et il insiste « Et nous le sommes !» Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et l'apôtre Paul ajoute ça en Romains chapitre 8, il dit « Car tous ceux qui sont conduits, verset 14, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ?» Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et Abba, c'est plus ou moins l'équivalent de notre papa. C'est un terme affectueux, un terme d'une relation d'amour. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'un des plus grands privilèges dans ce monde est d'avoir un père et de connaître avec lui une relation d'amour. Mais il n'est pas de plus glorieux privilège, il n'est pas de plus grande bénédiction que d'être un enfant de Dieu lui-même. La grande bénédiction, c'est donc d'être adopté, et puis d'être scellé. Dans les versets 11 et 12 de notre passage en Éphésiens, Paul dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. En lui, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers. Nous possédons un héritage céleste. Si nous avons été adoptés, nous sommes aussi héritiers. Notre héritage, c'est l'aspect de notre salut qui est encore principalement à venir. Nous avons été élus, nous avons été prédestinés avant que le monde n'existe. Nous avons été rachetés dans cet âge-ci. Et nous recevrons notre héritage, un héritage complet dans l'âge à venir, lorsque nous entrerons pleinement dans le royaume céleste et éternel. Ça, c'est une vérité essentielle de notre vie aussi. Il y avait un pasteur qui faisait un camp de jeunes un été, et il avait remarqué qu'il y avait un garçon avec un bras et une jambe quasi paralysés. Et ce jeune se tenait à l'écart des autres campeurs. Alors le deuxième jour, le pasteur est allé le voir pour se présenter à lui et puis pour essayer de connaître son nom. Et le garçon l'a regardé de travers, il a remonté sa manche, montrant son bras paralysé, et puis il lui dit « Regardez ce que Dieu m'a fait ». À ce moment-là, le pasteur a envoyé un SMS au Seigneur, « Donne-moi la sagesse pour lui répondre ». Et il lui a dit « Tu veux que je te dise quelque chose? Ça, c'est pas toi. » Le jeune, qu'est-ce que vous voulez dire là? Ça, c'est pas moi. » Il dit « Non, ça, c'est pas toi. Ça, c'est simplement la maison que tu habites. C'est rien que ça. » Et tu ne l'habites que temporairement. Tu vas déménager. Mais toi, tu restes qui tu es. Et Dieu a un plan pour toi. Et il t'offre un corps nouveau et un corps éternel dans l'avenir. Le jeune lui dit, vous n'êtes pas sérieux. Il dit, si, je suis très sérieux. Et je vais t'expliquer cette bonne nouvelle, l'évangile. Et le jeune a saisi, il a compris, il a accepté cette bonne nouvelle, il a reçu cette bonne nouvelle, fait de Christ son sauveur, et du coup lui a dit au pasteur, vous voulez pas faire une partie de ping-pong avec moi là? Il était maintenant libéré de toute son amertume due à son handicap, parce qu'il avait pris conscience qu'il avait un héritage. Un héritage glorieux, un héritage éternel, que ces quelques années qu'il passait ici-bas, c'était inconfortable peut-être dans son corps, mais qu'un jour, il posséderait un héritage éternel, un héritage glorieux. Paul dit, nous avons un héritage extraordinaire qui nous est réservé dans les cieux. La chose nous est acquise. Nous sommes héritiers. Ce n'est pas que nous allons peut-être devenir un jour héritiers. Non, nous avons été adoptés. Et parce que nous avons été adoptés, nous sommes aussi héritiers. Et nous avons tout ce qui nous... toutes les garanties d'entrer en possession de notre héritage. Mais aujourd'hui, ça reste une promesse pour nous. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Donc, la notion de promesse est encore très vivace dans notre esprit. Et les politiques et les autorités ont l'habitude de nous faire beaucoup de promesses. Nous-mêmes, nous faisons beaucoup de promesses et que nous ne tenons pas toujours. Nous faisons des promesses parfois avec des intentions tout à fait louables. Parfois, nous faisons des promesses avec des intentions moins louables, plus pour tromper. Mais toujours est-il que, bien fréquemment, nous n'assumons pas nos promesses. Mais Dieu, quand il fait une promesse, la promesse est certaine. La promesse est certaine. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas être Dieu et faire une promesse et ne peut pas l'accomplir. S'il est Dieu, s'il fait une promesse, elle va s'accomplir. C'est sûr. Et pour cela, pour que nous puissions vivre dans cette assurance, Dieu nous a scellés. Il dit dans notre passage, en lui aussi, verset 13, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Nous avons reçu un sceau, le sceau qui garantit toutes ces promesses merveilleuses. Et son Esprit Saint, c'est le sceau que nous avons reçu lorsque nous avons cru en Christ. Ça, c'est le sceau, c'est une allusion au cachet, vous savez, de cire qui est marqué du sceau. Et ce sceau nous assure quatre vérités essentielles. La première vérité, c'est la sécurité. Quand il y a un sceau, quand il y a un scellé, c'est quelque chose qui est protégé. Vous vous souvenez du tombeau de Christ ? Les Juifs avaient peur que les disciples viennent voler ils avaient peur que Christ ressuscite, en fait. Et ils sont allés dire, mais peut-être ces disciples vont venir voler le corps. Alors, mets un sceau. Et l'Empire romain a mis son sceau sur le tombeau. Et ce sceau, ça signifiait, celui qui ose toucher à ce sceau, à bouger cette pierre, c'est l'Empire romain qui l'a sur le dos. C'est-à-dire, c'était une sécurité. Aujourd'hui, quand on veut qu'une porte reste fermée, on met un scellé dessus. Et si vous défaites ce sceau, c'est le gouvernement que vous avez sur le dos, c'est la justice que vous avez sur le dos. Quand on met un sceau, ça nous garantit, ça nous assure, ça parle de notre sécurité. Et nous avons été scellés du sceau de Christ, le Saint-Esprit. Et puis ça parle aussi d'authenticité. Hein, le sceau, il était porté comme une bague la plupart du temps. Ça voulait dire que quand on voyait le sceau, on savait que la personne porteur du sceau avait lui-même mis son empreinte. Ça voulait dire que c'est sa signature, c'est l'authentification de sa signature. L'acte est authentique. Et c'est aussi ce qui s'est fait pour nous. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est la garantie de l'authenticité de l'œuvre qui a été faite en nous par Jésus-Christ dans notre cœur. Ça signifie, celui-ci m'appartient, il est un citoyen authentique de mon royaume divin, il est un membre de ma famille divine. Et puis, le sceau parle de la possession. Hein, on pense aux cow-boys qui marquent leur bétail au fer rouge. Leur marque, c'est leur signe d'appartenance. Et tout le bétail est marqué. Oh, ils peuvent se mélanger et courir dans les prairies entre différents troupeaux, mais chaque bétail tient une porte, la marque de son propriétaire. Le sceau du Saint-Esprit, c'est le sceau de notre appartenance à Dieu notre Père. Et puis enfin, le sceau, c'est l'autorité. quand un document porte le sceau d'une autorité, vous pouvez agir avec ce document, avec l'autorité de cette personne. Quand le roi Assuérus, roi de Perse, a fait un édit qui permettait aux Perses de se tourner contre les Juifs et de les massacrer et de spolier leurs biens, simplement parce qu'il avait mis son sceau, alors tous ceux qui avaient ce décret pouvaient aller attaquer les Juifs simplement parce qu'ils avaient l'autorité, ils avaient le droit, ils avaient la possibilité de le faire parce qu'ils avaient ce sceau du roi. Il a fallu qu'il fasse un deuxième décret avec son sceau permettant à tous les Juifs, et les encourageant même à le faire, à se défendre et à prendre les armes ce jour-là. Oui, le sceau du Saint-Esprit qui nous scelle, il nous délègue l'autorité de Christ pour proclamer, pour enseigner, pour servir son évangile avec autorité, avec l'autorité même de Dieu. De plus, il nous est dit ici que le Saint-Esprit est un gage. C'est une garantie donnée pour le paiement de tout le reste. C'est un dépôt de garantie. Parce que Dieu nous a laissé son Saint-Esprit, on sait qu'on va avoir tout le reste. L'héritage complet viendra. C'est une somme qui nous engage pour l'acquisition. Et Dieu s'est engagé avec nous de cette manière. Voilà la grande bénédiction, être adopté, être scellé, et puis être illuminé. Ça ne veut pas dire être d'avoir des fils qui se touchent ou des choses comme ça. Être illuminé. Paul, après avoir évoqué tout ça, il se rend compte que ces vérités-là, elles sont extraordinaires. Elles sont tellement précieuses, tellement belles. Elles sont porteuses de toutes les promesses, de toutes les autres bénédictions. Et nous aussi, certainement, on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux que d'être fils, fille de Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux que d'avoir Jésus-Christ comme sauveur, d'avoir son Esprit Saint qui nous a scellés, qui nous garantit toutes les plus précieuses promesses? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre salut? Cherchez bien. Il n'y a rien. Rien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas transporté de joie constamment? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours confiant, toujours joyeux, toujours... Est-ce qu'il manque quelque chose? Il ne manque rien. Mais Paul... Après avoir évoqué tout cela, il fait une prière et au verset 17, il dit « Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Waouh ! On voit bien qu'il a entassé des mots et des mots de gloire, de joie, de grâce, pour qu'on puisse comprendre tout ça. Et on réalise que, oui, on commence à toucher un petit peu le bout. Et il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire votre compréhension, pour que nous comprenions ce que Dieu a déjà fait pour nous. William Randolph Hearst, c'était un homme politique et un magnat de la presse américaine. Il a lu un jour dans une revue quelque chose de fort intéressant sur une œuvre d'art de très grande valeur. Et il a tout de suite décidé de l'acquérir et de l'ajouter à son énorme collection qu'il possédait déjà. Alors il a donné des instructions à son agent. Il a dit, écoute, je veux cette œuvre. Alors, tu te débrouilles, tu parcours le monde, tu fais toutes les galeries d'art, mais je veux cette œuvre dans ma collection. Tu l'achètes à n'importe quel prix. Le gars est parti et quelques mois plus tard, il est revenu puis il a dit, j'ai trouvé. Vous êtes déjà propriétaire de cette œuvre. Elle est dans un de vos entrepôts depuis plusieurs années. C'est tragique de penser que bien des croyants sont engagés dans la poursuite de quelque chose de plus dans la vie chrétienne. Quelque chose de spécial, de quelque chose de supplémentaire que la vie chrétienne ordinaire n'offre pas. Ils veulent avoir plus de Jésus-Christ, plus du Saint-Esprit, plus de puissance, plus de bénédiction. Comme si Dieu n'avait pas déjà tout donné en Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment de notre conversion. Pierre dit expressément dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, dira Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. » Ce que le Nouveau Testament enseigne sur le salut, c'est qu'à la nouvelle naissance, tout croyant reçoit tout en Christ. Dans notre passage, il dit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Un bébé a tout en lui, dès la naissance, pour ne pas dire dès la conception, tout ce qui lui est nécessaire pour la vie. Chaque chrétien a des besoins particuliers, des besoins physiques, moraux, spirituels, pour lesquels il doit demander à Christ. Mais aucun chrétien n'a besoin, ni ne peut recevoir plus du Seigneur, de ses bénédictions ou de son héritage qu'il n'a déjà reçu en Christ. Il nous dit de comprendre ce que nous avons reçu. Paul prie non pas que les Éphésiens reçoivent ce qu'il leur manque, mais que Dieu leur révèle ce qu'il leur a déjà acquis en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons vivre dans la culpabilité du péché, mais Jésus nous a déjà obtenu le pardon des péchés. Verset 7. Nous pouvons vivre solitaires, sans famille. Mais Christ nous a déjà acquis une famille en Christ, une église. Verset 5. Nous pouvons vivre comme un orphelin. Mais Dieu nous a déjà adoptés en Christ. Verset 4. Nous pouvons vivre dans l'amertume parce que nous connaissons des problèmes de santé. Mais nous pouvons aussi vivre dans l'espérance de l'héritage que Dieu nous a déjà acquis afin que nous célébrions sa gloire pour l'éternité. Nous pouvons vivre comme des mendiants dans ce monde. Mais Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en lui. Verset 3. Nous pouvons vivre en nous efforçant de lui plaire par nos mérites, tantôt dans l'orgueil, quand nous faisons bien, tantôt dans le désespoir lorsque nous n'y parvenons pas. Mais nous pouvons aussi vivre dans la justice qui nous est offerte par la foi, verset 4. Le réveil spirituel La grande bénédiction, c'est de vivre dans la réalité de notre salut acquis par Jésus-Christ à la croix et d'y demeurer. Tout est en Christ. Alors, cherchons-le, lui seul. Écoutons-le. Marchons avec lui. Aimons-le. Paul dira aux Philippiens, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est ce que devrait être aussi notre mot d'ordre à chacun. Pour moi, vivre, ça devrait être Christ. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on comprenne tout ce que nous possédons en Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous joindre à la prière de l'apôtre Paul. Parce que Seigneur, on sait que toutes ces vérités de l'adoption, du sceau que nous avons reçu, toutes ces choses-là nous garantissent les plus précieuses promesses, la plus grande bénédiction qui soit. Mais Seigneur, on a confesse que on a besoin que tu illumines encore les yeux de nos cœurs. On a besoin que tu nous attires toi-même, tout à nouveau à toi, pour retrouver ce premier amour dont on a parlé, pour retrouver cette flamme. Et Seigneur notre Dieu, on te prie pour que tu nous secours dans la lecture de la parole de Dieu, pour que, comme tout à nouveau, Seigneur, et tu te révèles à nos cœurs. Que la réalité de ce que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, impacte durablement, Seigneur, nos vies de chaque jour. Que nous ne vivions pas comme des orphelins ou comme des fils de ce monde, mais vraiment comme des enfants de Dieu. Ô Seigneur, donne-nous cette joie d'avoir un Dieu si grand, si bon pour Père. Permets-nous de nous attacher à toi de tout notre cœur. Par Jésus-Christ. Amen.